François Ozon, bonjour. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre dernier film, Mon Crime, qui sort le 15 mars. Il s'agit de l'adaptation d'une pièce écrite par le duo Georges Bert et Louis Verneuil, qui avait été jouée pour la première fois au Théâtre des Variétés à Paris le 12 mars 1934. Alors, je me suis demandé si les thèmes actuels qui sont dans votre film étaient déjà dans la pièce ou c'est votre énorme travail d'adaptation avec Philippe Piazzo.
Il y a un gros travail d'adaptation parce que la pièce était surtout concentrée sur l'aspect judiciaire, sur le scandale
les de femmes corruption. Encore.
Oui, non, ça c'est moi. Ça c'est moi, les femmes encore. Non, ça c'était plus sur la corruption de la justice, les magouilles entre politiques, la police, toutes ces choses-là. Moi, j'ai vraiment utilisé l'argument principal d'une fausse criminelle qui s'accuse d'un crime qu'elle n'a pas commis et grâce auquel elle va devenir célèbre. C'est ça vraiment que j'ai utilisé. Après, je l'ai beaucoup adapté. J'ai fait en sorte qu'il résonne avec aujourd'hui, avec nos préoccupations sur les rapports hors-femmes, sur le sexisme, le patriarcat. Et j'ai changé pas mal de choses, mais j'ai tenu à garder beaucoup de dialogues que je trouvais drôles et qui avaient, même par leur côté désuet, une résonance avec aujourd'hui.
Est-ce qu'il y avait déjà la référence à Violette Rozière, Violette qui a été Nozière. Condamnée quelques mois après, ouais. J'ai vu, ouais. la première de la pièce.
Non, il n'y avait pas de référence à Violette Rozière ni aux Sœurs Papin. C'est moi aussi qui l'ai rajouté suite à un travail historique sur la période. C'est-à-dire que je me suis vraiment replongé dans cette période et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait eu ces deux faits divers qui ont fait énormément parler en France dans les années 30 de deux femmes qui avaient commis des crimes. Et pour l'époque, c'était extrêmement choquant parce qu'une femme, normalement, devait être douce, gentille, rester à la maison, s'occuper des enfants et faire la cuisine. Et tout d'un coup, que ces femmes puissent commettre des meurtres, c'était une déstabilisation énorme du patriarcat. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de regarder ces faits divers qui ont défrayé la chronique à l'époque avec nos yeux d'aujourd'hui. Par exemple, Violette Rozière, à l'époque, elle était vue comme une fille de petite vertu, qui se comportait mal. Et si on analyse le fait divers aujourd'hui, on se rend compte que c'était surtout une femme qui était victime d'un inceste avec son père. Et voilà, il commettait un parricide. Bon, donc le regard est complètement différent. Mmh. Mais à l'époque, ce n'était pas vu comme ça. Ou alors, elle était vue comme une héroïne par les surréalistes parce qu'elle se révoltait contre l'autorité parentale.
Alors, vous aimez aborder des thèmes graves comme la pédophilie dans l'Église, le suicide assisté et ici, donc, la condition féminine. Le ton léger, ça vous est venu un bol d'air, un besoin de légèreté ?
Oui, absolument. J'avais besoin...
Après Peter Van Kamp ?
Après Peter Van Kamp. Et surtout, j'ai eu cette idée pendant le confinement. Je me suis dit que j'avais envie de revenir à la comédie. J'y reviens tous les 10 ans. Il y a 20 ans, j'ai fait 8 femmes. Il y a 10 ans, j'ai fait Potiche. Et là, c'est un peu le troisième volet de la trilogie. Et j'avais envie, oui, de revenir à quelque chose de léger. Et je pense que cette histoire me le permettait parce qu'elle se passe dans les années 30. Du coup, il y a une forme de distance, une période qu'on n'a pas vécue. C'est une période où le patriarcat est écrasant, que les femmes sont dans des conditions très compliquées. Et donc, je trouvais que cette histoire s'inscrivait bien puisque c'est l'histoire de deux jeunes filles qui essayent de s'en sortir dans un monde hostile.
Alors, c'est un film qui est coproduit par la Belgique, notamment par Scope Pictures, et donc l'occasion de découvrir un petit peu nos paysages, et notamment en tant que Carolo, l'hôtel de ville de Charleroi.
Absolument.
Et puis l'avenue Roosevelt avec la ville en pain de la Fondation Bogossian. Est-ce que vous allez vous-même en repérage ?
Bien sûr. Pour moi, les décors sont très très importants, et c'est vrai que avec Jean Rabas, le chef décorateur, on a voulu reconstituer un peu les années 30 parisiennes, et notamment avec des bâtiments art déco. Et hélas, on n'en a pas trouvé à Paris. En France, c'était compliqué. Et on s'est souvenu qu'à Bruxelles, il y avait cette villa absolument magnifique, la Villa en Pin, qui est un pur joyau de l'art déco. Et donc, on a...
Qui est un vrai personnage.
Qui est un vrai personnage, puisque le film commence par ce bâtiment, et c'est une manière de raconter qui est ce producteur, dont on n'entendra jamais la voix. Sa villa parle d'elle-même, on voit le raffinement, le luxe, le côté hollywoodien aussi, avec la piscine. Donc, c'était parfait. Moi, ce n'était pas du tout ce à quoi j'avais pensé dans mon scénario. Il devait habiter dans un bel immeuble à Neuilly. Et là, quand j'ai vu ce bâtiment, j'ai découvert cette ville-là, je me suis dit, mais c'est parfait pour le film. En plus, c'est magnifique. magnifique. Et puis j'ai tourné aussi à Charleroi dans
l'hôtel de ville
mmh. qui dans lequel on n'avait jamais filmé et qui est très beau, qui est un décor incroyable.
Donc en tant qu'Herlo, je suis très fier.
Merci.
En parlant de Belgique aussi, mais il y a aussi votre les retrouvailles avec Manu Dacos,
oui.
puisque c'est quand même l'amant double, le grâce à Dieu, Peter Van Kamp. Et ici, comment vous travaillez avec lui? Est-ce qu'il y a un modus operandi? Est-ce qu'il y a des inspirations pour ce film?
Sur chaque film, c'est très différent. Ce qui est intéressant avec Manu, c'est qu'on vient de deux milieux différents. On n'a pas la même cinéphilie. Lui vient plus du film de genre. Et moi, je viens plus du cinéma hollywoodien des années 50, Technicolor, les années 40. Voilà, c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Lui, il n'est pas dans cette tradition-là. Donc, notre complémentarité donne quelque chose d'intéressant, nos discussions. Là, sur ce film, je lui ai demandé de se plonger dans les films des années 30, de regarder les films de Sacha Guitry, de Lou Beach, qui étaient des films en noir et blanc. Donc, on s'est posé la question. Mmh. Est-ce qu'on tourne en noir et blanc? Et moi,
en voyant... Ça a été envisagé,
mais en voyant les décors, voyant les costumes, je me suis dit non, il faut faire de la couleur. Mais il y a quand même du noir et blanc dans le film, tourné en 16 mm, alors que le reste est tourné en numérique.
On va quand même un peu parler de vos acteurs, indépendamment de Nadia et de Rebecca. Isabelle Huppert, la star du muet, vous lui avez donné un débit de parole incroyable. C'est elle qui l'a trouvé ou c'est
on l'a trouvé ensemble, voilà. C'était le personnage d'Odette Chaumette. On s'est raconté que c'était une actrice du muet qui n'avait pas passé le cap du parlant. Et quand on l'entend parler, on comprend pourquoi. Voilà, elle parle trop vite. Dans les films muets, les personnages faisaient des gestes très accélérés. Donc, on a joué un petit peu là-dessus. On s'est beaucoup inspiré de Sarah Bernhardt, des tenues de Sarah Bernhardt, qui était la grande actrice du siècle dernier, voilà, qui était connue dans le monde entier. Et c'était très amusant de demander à Isabelle de jouer un personnage extrêmement extraverti, un peu à l'opposé de ceux dans les films dans lesquels on la voit, où elle est plutôt dans un registre dramatique et intériorisé.
Alors, Fabrice Lucchini, il a quelques belles répliques. Hein. Le reconnasse, ça c'est énorme. Et alors, ce crime n'est pas libre. J'adorais. J'ai cru voir le Jouvet de Drôle de Drame.
Fabrice est un grand admirateur de Louis Jouvet et dès le début il m'a dit ça va être l'occasion pour moi de lui rendre hommage et c'était génial. Moi je pensais plus au Jouvet de Quai des Orfèvres, voilà.
Ah, ouais.
Il joue aussi un inspecteur et Fabrice a une diction incroyable et je trouve qu'il a le sens du rythme, il sait appuyer sur le bon mot pour créer l'effet comique, le temps. Et c'était un vrai bonheur de l'avoir face à Danny Boone.
Est-ce qu'il y a encore de l'impro dans ce genre de... Puisque finalement, c'est quand même ça vient d'une pièce, et donc vous le laissez, il y a une certaine latitude quand même.
J'ai beaucoup transformé, j'ai fait beaucoup de lectures en amont, ce qui nous permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de couper, de changer certaines répliques. Donc ça, c'était un travail qu'on avait fait en amont. Après, sur le tournage, oui, des fois, par exemple, le reconnaisse coupable, c'est moi qui ai eu l'idée pendant les répétitions. C'était pas dans le texte original. Je trouvais ça drôle. Après, quand on a mis l'histoire du pastis avec Danny Boone qui joue un Marseillais, il a rajouté la réplique faut mettre de l'eau, sinon ça éblouit. Enfin, je connais pas exactement la réplique. Voilà, il me propose. Et moi, c'est génial. Quand j'ai des acteurs de ce calibre, on les écoute. Ils ont forcément des bonnes idées. Alors, des fois, je dis non. Et la plupart du temps, je dis oui parce que ils connaissent le personnage, ils l'ont en eux et du coup c'est assez formidable.
J'ai quand même appris que le pastis en effet a été découvert un an ou deux avant.
Absolument, c'est une nouvelle boisson, donc c'est pour ça que le personnage de Madeleine dit qu'est-ce que c'est, voilà, et Danny Boone lui explique.
Au niveau des comédiens, la façon de les faire déplacer, etc., vous avez beaucoup de répétitions, indépendamment des lectures de texte?
Avec les deux actrices, oui. Avec Nadia et Rebecca, c'était important parce que ça les mettait en confiance et je voulais, comme je savais qu'elles allaient se retrouver en face de grandes pointures, qu'elles soient le plus à l'aise possible, aussi bien dans le texte que dans leur déplacement. Donc, dès que les décors étaient prêts, j'allais répéter avec elles sur le décor.
Et la musique?
La musique, alors j'ai travaillé avec Philippe Rombie, avec qui j'avais déjà travaillé sur beaucoup de films. Et je trouve que Philippe est très doué pour la musique de comédie, ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'il faut trouver sa place. Et puis, sur un film dramatique, la musique fonctionne toujours plus facilement. Là, il faut trouver le rythme, il faut trouver, être capable d'accompagner certaines actions, des fois être en contrepoint, créer des effets comiques, et puis avoir le bon rythme. Et je trouve que Philippe Rombie est très bon parce qu'il arrive à faire tout ça tout en amenant une mélodie. Donc pour moi, c'est le meilleur musicien, je trouve, pour la comédie française.
François, un grand merci. On rappelle Mon Crime, 15 mars.
Merci à vous.